Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 10, première partie, parce qu'il y en aura, je pense, 3. Et nous avons l'étude de la captivité de Babylone à la venue de Jésus-Christ. Cela devient donc de plus en plus intéressant. Avant d'en venir aux détails, je remarquerai 3 choses par lesquelles cette époque, qui embrasse une durée d'environ 600 années, se distingue de la précédente. Premièrement, bien que nous n'ayons dans la pratique historique des Saintes Écritures aucun détail sur une grande portion de cette époque-là, cependant, les événements qui la signalent font plus que deux, on peut dire plus d'aucune autre période de l'objet de la prophétie. C'est-à-dire l'Écriture sainte a 2 méthodes de raconter les événements par lesquels l'œuvre de la rédemption se poursuit. L'une, c'est historique et l'autre, c'est prophétique. Nous avons donc d'une manière et de l'autre dans les Saintes Écritures un compte rendu des événements par lesquels l'œuvre de la rédemption est accomplie du commencement à la fin. Bien que les Saintes Écritures ne renferment pas précisément une histoire du tout, cependant on trouve soit dans sa partie historique, soit dans sa partie prophétique, la chaîne des grands événements qui ont concouru au progrès de cette œuvre du commencement à la fin. Et il faut observer que ce qui manque dans l'une de ces parties se retrouve dans l'autre. Où la partie historique fait défaut, nous avons la prophétie pour y suppléer, de sorte que le récit se continue toujours. La chaîne n'est pas brisée et nous venons à son dernier, on peut dire, chaînon dans la consommation de toutes choses. Voyez-vous, on peut observer au sujet de cette longue durée que bien qu'elle soit moins le sujet de l'histoire biblique plus complet que la plupart des époques précédentes, il y a plus de 400 années sur lesquelles on peut bien dire que les Saintes Écritures malheureusement ne donnent pas de détails historiques. Les événements sont plus le sujet de la prophétie que celle de toutes les autres périodes précédentes ensemble. Excusez-moi. La plupart des remarques prophétiques du livre de Daniel, la plupart de celles d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel contre Babylone, contre Tyr, l'Égypte et plusieurs autres nations, ont eu leur accomplissement à cette époque-là. Ainsi, si l'Écriture sainte ne nous donne pas de récit historique d'une si grande portion de ces temps-là, ce n'est pas que les événements ont été moins importants ou moins dignes de remarque que ceux qui avaient précédé, car ils ont été grands et très remarquables. Mais on peut donner diverses raisons pour tout cela. Une de ces raisons est que Dieu voulait que l'esprit de prophétie avait dû cesser dans cette époque-là pour des raisons que nous donnerons un peu plus tard, de sorte qu'il n'y avait pas de prophète pour écrire l'histoire de ces jours-là, et c'est pourquoi Dieu, ayant cela en vue, a pris soin qu'il fût fait quelques mentions dans sa parole uniquement des grands événements de cette époque-là. Il faut observer que les prophètes écrivains qui ont écrit en Israël ont été suscités à la fin de l'époque précédente et au commencement de celle-ci. En effet, le temps s'approchait où l'esprit de prophétie ayant disparu, il n'y aurait plus d'histoire inspirée et par conséquent, aucun autre récit scripturaire, sauf celui qui serait donné dans la partie prophétique. On peut donc trouver une autre raison pour la suspension de l'histoire inspirée dans le fait que Dieu avait providentiellement pris soin que les événements de cette époque étaient vraiment authentiquement et pleinement conservés dans l'histoire profane. Il est très digne de remarque que pour ce qui est des événements des cinq époques précédentes, dont les Saintes Écritures donnent les récits, l'histoire profane garde donc le silence, comme on le voit, ou ne fournit que malheureusement que très peu de renseignements. Il y a donc plusieurs récits fabuleux, il faut bien le dire, et des choses qui sont arrivées avant cela, mais on pense que l'histoire profane authentique commença environ une centaine d'années avant Nebuchadnezzar. Les savants grecs et les romains avaient l'habitude d'appeler les siècles précédents les temps fabuleux. Et tous ceux qui survinrent après, ils les ont nommés les temps historiques. Et à partir d'environ ce temps-là, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, nous avons dans l'histoire profane des récits authentiques des principaux événements. Et ils sont dans un accord admirable avec les nombreuses prophéties qui se rapportent en ces jours-là. Ainsi, voyez-vous, le Dieu Tout-Puissant, qui règle toutes choses, a pris soin de donner un récit historique des choses à partir du commencement du monde, touchant ces âges éloignés au sujet desquels l'histoire profane garde le silence. Et il n'a pas cessé de le faire que lorsque on en fut venu à ces temps dans lesquels l'histoire profane rapporte les faits avec les quelques certitudes. Et pour ce qui est de ces derniers temps, il nous en donne d'abondants détails dans la partie prophétique, afin que, en la comparant avec l'histoire profane, nous puissions voir, vraiment voir, que les deux s'accordent bel et bien. Deuxièmement, cette dernière période de l'Ancien Testament semble se distinguer d'une manière remarquable de toutes les autres, par de grandes révolutions chez les nations de la terre. Tout cela pour préparer la voie au royaume de Christ. Comme le temps où Christ, le grand roi et le sauveur du monde, allait venir, approchait vraiment à grands pas, il se fit de grands changements en vue de ce très grand événement. La voie avait été préparée depuis la chute de l'homme, durant toutes les époques précédentes. Mais maintenant, comme le temps s'approche, les événements se précipitent et la providence divine agit d'une manière très puissante. Les plus grandes révolutions dont l'histoire a fait mention ont eu lieu à cette époque-là. Presque toutes les nations, de loin et de près, et dans le cercle de celles que les Juifs connaissaient, ont été plusieurs fois bouleversées. Oui, tous les pays ont été tour à tour soumis, subjugués, en quelque sorte, et vidés et bouleversés, et la plupart d'entre eux, à plusieurs reprises du reste, pendant cette époque-là, conformément aux paroles de cette prophétie qui dit « Voici l'Éternel s'en va rendre le pays vide et l'épuiser, et il en renversera le dessus et dispersera ses habitants. » Ésaïe chapitre 24, verset 1. Ces révolutions ont commencé par atteindre l'Église visible de Dieu qui a été amenée en captivité par le roi de Babylone. Et ensuite, la coupe a passé aux autres nations autour d'elle, conformément à ce que Dieu révéla au prophète Jérémie, chapitre 25, verset 15, jusqu'au verset 27. Ici, il semble être surtout question des grandes révolutions du temps de l'Empire de Babylone. Mais après cela, il y a eu trois grandes révolutions générales avant la venue de Jésus-Christ qui se sont succédées avec les trois grandes monarchies du monde après l'Empire de Babylone. Il est du reste dit dans les Saintes Écritures que le roi de Babylone a bouleversé le monde, mais après cela, la monarchie babylonienne a été renversée par Cyrus, qui fonda à sa place celle des Perses. Et celle-ci a été beaucoup plus étendue que celle de Babylone, au plus haut point de sa gloire. Ainsi, le monde a été bouleversé une seconde fois. Après cela, la grande monarchie des Perses a été renversée par Alexandre et celle des Grecs a été ainsi fondée. Celle-ci était encore, je parle des Grecs, était encore beaucoup plus étendue que ne l'avait été celle des Perses. Et ainsi, il y a eu, pour la troisième fois, un grand bouleversement du monde entier. La monarchie des Grecs fut plus tard renversée par les fameux Romains, et l'Empire romain a été établi avec toutes ses légions romaines. Celui-ci, évidemment, dépassa de beaucoup les deux précédentes en pouvoir et par l'étendue de sa domination, de sorte que le monde fut bouleversé pour la quatrième fois. Il est évidemment beaucoup question dans les prophéties de Daniel de ces diverses monarchies et des grandes révolutions dont elles ont été l'occasion. Elles sont donc représentées par la statue d'or, rappelez-vous, cette statue d'or, d'argent, d'airain et de fer de Nebuchadnezzar ou de Nebuchadnezzar, suivant les versions bibliques, et par l'interprétation qui en est donnée dans Daniel au chapitre 2 par la vision des quatre bêtes et par l'interprétation que l'ange en donne dans Daniel chapitre 7. Il est donc particulièrement question de la transition de la monarchie des Perses à celle des Grecs dans le chapitre 8, dans la vision que Daniel a eue du bélier et du bouc, et encore dans le chapitre 11. Veuillez s'il vous plaît noter attentivement les versions bibliques que je vous donne, parce que c'est important que vous puissiez constater que je ne vous raconte pas une chose uniquement de mes idées personnelles, mais que je me base vraiment, uniquement, comme toujours, sur la sainte parole de Dieu. Je ne me permettrai pas de dire autre chose, puisque comme vous le savez aussi bien que moi. J'en serai 100% responsable plus tard. Et croyez-moi, c'est pas une chose à prendre à la légère. Donc, outre ces quatre révolutions générales, le monde a été, pour ainsi dire, dans un état de convulsion permanente pendant toute cette époque-là. Et jusqu'alors, il avait été comparativement dans un état de repos, bien qu'il a été comparativement, on peut dire, dans de très grandes guerres. Il y avait eu des très grandes guerres parmi les nations. Toutefois, il n'est pas question de convulsion universelle, ni de révolution semblable à celle de cette époque-là. Donc, la plupart des nations du monde de ce temps-là, étaient restées longtemps sur leur lit, ce qui veut dire sur le déchet du peuple, sans être transvasées d'un vase dans un autre, comme cela est dit de Moab, Jérémie, chapitre 48, verset 11. Ces grandes révolutions ont eu lieu parce que les jours du Messie approchaient. Il est donc évident, d'après les Saintes Écritures, qu'elles avaient pour but de préparer la venue de Jésus-Christ, et nous le voyons en particulier par Ézéchiel, chapitre 21, verset 32. Là, il est dit, « Je la mettrai à la renverse, à la renverse, à la renverse, et elle ne sera plus, jusqu'à ce qu'elle vienne, que vienne celui auquel appartient le gouvernement, et je le lui donnerai. » En répétant trois fois à la renverse, eh bien le prophète a en vue trois révolutions. C'est ainsi que la répétition par trois fois du mot « malheur » dans Apocalypse, chapitre 8, verset 13, indique trois calamités distinctes, comme on le voit par ce qui suit, c'est-à-dire un malheur, est-il dit, est passé. Apocalypse, chapitre 9, verset 12. Le second malheur est également passé, et voici le troisième malheur, viendra bientôt. Apocalypse chapitre 11 verset 14. Il faut donc remarquer que Ézéchiel prophétise du temps de la captivité de Babylone et par conséquent, d'après cette prophétie-là, il devait y avoir trois grandes révolutions générales avant la venue de Jésus-Christ. La première serait faite par les Perses, et on a vu cela, et la seconde, comme je vous l'ai dit, par les Grecs, la troisième, par les Romains, et alors, là, viendra Jésus-Christ pour prendre le diadème qui lui était dû et pour régner. Ici, il est donc évidemment question de ces grandes révolutions comme préparant la venue de Jésus-Christ et son royaume. Mais, pour bien comprendre ces paroles, nous devons remarquer cette expression qui dit « Je la mettrai à la renverse, à la renverse, à la renverse », c'est-à-dire la tiare et la couronne d'Israël, ou le pouvoir temporel suprême sur le peuple visible de Dieu. Dieu dit du reste que ce pouvoir n'existerait plus, que la couronne serait enlevée, ainsi que le diadème, comme cela est dit dans le verset précédent. Le pouvoir suprême sur Israël ne devait plus résider dans la maison royale de David, à laquelle il appartenait proprement, mais il devait être enlevé et il devait être confié à d'autres mains et passer ainsi des uns aux autres. D'abord, le pouvoir suprême sur Israël devait passer aux Perses pour être renversé et de passer aux Grecs, puis être renversé à nouveau et passer aux Romains. Il devait donc cesser d'être dans la famille de David jusqu'à la venue du fils de David qui y avait droit et à qui Dieu le donnerait. Que ces grandes révolutions des nations avaient pour but de préparer la venue de Jésus-Christ et l'établissement de son royaume dans le monde. C'est ce qu'on voit encore très clairement par le livre de Agée, Agée, chapitre 2, versets 6 et 7. Il est dit, « Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce qui même sera dans peu de temps, eh bien j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, et j'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, a dit l'Éternel des armées. » Voyez et notez aussi les versets 21 et 23. Il est donc manifeste, d'après cela, que ces commotions qui renversaient les trônes, les royaumes et les armées, et qui faisaient que les hommes s'entre-détruisaient, avaient pour but de préparer la venue de celui qui est le désiré des nations. Les grands changements et les troubles qu'il y a eu quelquefois dans l'Église visible sont comparés à un travail d'enfantement de l'Église pour produire Jésus-Christ, selon Apocalypse chapitre 12, verset 2. On peut dire également que ces grands troubles et ces terribles révolutions ont été en quelque sorte le travail d'enfantement du monde pour produire le Fils de Dieu, l'apôtre, dans le huitième chapitre de l'Épître aux Romains, représente la création entière comme soupirant et comme étant en travail pour produire la liberté et la manifestation des enfants de Dieu. Ainsi, le monde a été en quelque sorte en travail et en proie à des convulsions continuelles pendant plusieurs centaines d'années pour enfanter l'enfant premier-né, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu. Ces grandes révolutions ont été tout autant d'angoisses et de douleurs. La circonstance que le monde a eue si longtemps dans un état de guerre et de carnage prépara ainsi la venue du prince de paix en faisant sentir le grand besoin qu'on avait d'un tel prince pour délivrer enfin le monde de toutes ses misères. Ensuite, Dieu jugea bon de faire par sa providence que les pouvoirs terrestres puissent s'élever au plus haut degré de leur puissance et pouvaient ainsi paraître dans toute leur gloire dans ces quatre grandes monarchies qui se succédèrent l'une après l'autre et que chacune fut plus grande est plus glorieuse que la précédente avant d'établir le royaume de son fils bien-aimé. Cela a été, on peut dire, fut combien son royaume spirituel a été donc beaucoup plus glorieux, il faut bien le dire, que le plus glorieux de tous les royaumes temporels. La force et la gloire de Satan sont apparues dans tout leur éclat dans ces quatre monarchies, c'est vrai, car comme elles étaient les monarchies du monde païen, eh bien leur force était celle, bien entendu, du royaume de Satan. Dieu a permis que le royaume de Satan a pu s'élever à cette hauteur de pouvoir et de gloire avant la venue de son Fils bien-aimé pour le renverser, et ceci dans le but de rendre son triomphe plus glorieux. Il convient donc que Goliath soit revêtu de son armure, magnifique. Lorsque le jeune David s'est avancé contre lui, armé seulement d'une fronde et d'une petite pierre pour rendre la victoire de David plus remarquable, Dieu permit donc qu'une de ces grandes monarchies en soumît une autre et s'éleva sur ses ruines plus puissantes encore, et que la dernière fut la plus forte et la plus puissante de toutes, et ceci afin que Jésus-Christ, la renversant, les renversa en quelque sorte toutes à la fois. Du reste, il est dit que la pierre coupée de la montagne sans main détruisit la statue toute entière. Rappelez-vous l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'argile. De sorte que le tout devient comme la balle que le vent pousse ou souffle au loin. Et c'est ainsi qu'il fut permis à ces puissants empires de révolutionner le monde et de se détruire les uns les autres. Et bien que leur pouvoir fût si grand, ils furent pourtant hors d'état de se maintenir. Ils sont tombés les uns après les autres, et ils ont été réduits à rien. Ce fut même le cas du dernier d'entre eux, qui était le plus fort et qui avait envahi la terre tout entière. Dieu prit donc plaisir à montrer ainsi en eux l'instabilité, la vanité de tout pouvoir et de toute grandeur terrestre, pour mettre en évidence d'une manière frappante la gloire du royaume de son Fils, qui ne doit jamais être détruit. Et au temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais dissipé, et ce royaume ne sera point laissé à un autre peuple, mais il brisera et consumera tous ses royaumes, et il sera établi éternellement. Notez Daniel, chapitre 2, verset 44. Tant est grande la différence entre ce royaume et les autres royaumes de la terre, ils disparaissent et passent à d'autres peuples. Mais celui-là subsistera pour toujours. Dieu permit donc ainsi au diable de faire de son mieux et d'établir sa puissance en fondant le royaume le plus grand, le plus fort, le plus magnifique qui fut jamais avant que Jésus, lui, le méprisé des nations, lui, le renversa, et lui qui pouvait ainsi commencer son empire. Dieu est venu dans le monde pour renverser le royaume de Satan, afin que la main de l'Éternel fût contre tout, vraiment contre tout ce qu'il y avait de hautain et d'orgueilleux, contre toute haute tour et toute montagne élevée, selon Ésaïe, chapitre 2, verset 12. Et c'est pourquoi il fut permis à toutes ces choses de s'élever très haut, afin que Christ pouvait paraître d'autant plus glorieux en les dépassant. C'est ainsi que le grand et le sage gouverneur du monde prépara toutes choses pour la fondation du magnifique royaume de son Fils bien-aimé. Et troisièmement, cette dernière époque, avant la venue de Jésus-Christ, fut remarquable aussi par l'admirable préservation de l'Église à travers toutes ses révolutions. Cette préservation fut à quelques égards plus remarquable à cette époque que pendant aucune des précédentes. Il est donc très surprenant de voir l'Église, si faible à cette époque-là et dans une si humble position, la plupart du temps soumise aux monarchies païennes, se maintenir ainsi pendant 500 ou 600 ans, tandis que le monde est si souvent révolutionné, la terre déchirée et réduite en désert, et que ses habitants s'entre-détruisent. La chose paraît donc d'autant plus remarquable quand on considère que la Judée, principal lieu de séjour de l'Église, était justement au milieu des parties belliques, on peut dire belligérante, qu'elle fut même souvent le théâtre de la guerre, et que maintes fois elle fut ravagée et subjuguée. Elle fut donc au pouvoir, tantôt d'un peuple, tantôt d'un autre, et le grand objet d'envie et de haine de toutes les nations païennes. Elle fut donc souvent presque ruinée, on peut bien le dire, par tous. Des multitudes de ses habitants furent détruits. Elle fut à peu près dépeuplée, et ceux qui ont eu sous leur domination se proposèrent souvent son entière destruction. Et pourtant, voyez-vous, les Israélites se sont toujours maintenus debout. Ils furent préservés dans leur captivité à Babylone, au milieu de tous les dangers auxquels ils ont été exposés sous les rois de Perse, dans les périls encore plus grands par lesquels ils ont passé sous l'empire des Grecs, et plus tard, quand le monde fut opprimé par les légions romaines. Leur préservation a duré pendant cette période est aussi particulièrement remarquable, et ceci, c'est qu'il n'est nulle part dit que l'Église, dans aucune des époques précédentes, ait eu à souffrir autant de la persécution que sous Antiochus Épiphane, comme nous le verrons plus tard. Eh bien, cette admirable préservation de l'Église à travers tous ces bouleversements du monde explique et confirme ce que nous lisons dans le psaume 46, versets 1 et 2, où il est dit que Dieu est notre retraite, il est notre force et il est notre secours dans les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand on remuerait la terre et que les montagnes se renverseraient dans la mer. Ainsi, je viens de remarquer certaines caractéristiques généraux qui distinguent cette période de l'Ancien Testament, et j'examinerai maintenant comment l'œuvre de la rédemption a pu être poursuivie dans tous ses détails. La première chose qui se présente ici, c'est la captivité des Juifs à Babylone. Ce fut là une grande dispensation de la Providence, et il n'y en a jamais eu de semblable auparavant. Les enfants d'Israël, du temps des juges, avaient souvent été subjugués par leurs ennemis et plusieurs personnes avaient été amenées en captivité à diverses époques. Mais jamais avant cela, on n'avait vu le pays tout entier détruit avec le sanctuaire, la ville de Jérusalem, toutes les villes et villages de la contrée, le peuple entier qui avait été transporté hors de son pays à plusieurs centaines de lieues de distance et la terre de Canaan complètement désertée par le peuple visible de Dieu. L'arche avait une fois quitté le tabernacle à Silo et elle avait été amenée captive dans le pays des Philistins. Mais il n'y avait jamais eu rien comme l'incendie du sanctuaire, l'enlèvement des vases sacrés et les ustensiles, la cessation du culte établi dans le pays et la désolation du pays durant tellement d'années. Comme toutes ces choses se trouvent rapportées d'une manière saisissante dans les Lamentations de Jérémie. L'œuvre de la rédemption fut donc avancée par cette dispensation remarquable de la manière suivante. Premièrement, cela a guéri définitivement cette nation de son idolâtrie. Le prophète Ésaïe, parlant de l'établissement du règne de Christ, chapitre 2, verset 18, mentionne l'abolition de l'idolâtrie comme étant une des choses qui devait avoir lieu en vue de cet événement-là. Et quant aux idoles, elles sont tombées toutes. Le temps approchait dans lequel Dieu allait détruire l'idolâtrie païenne dans la plus grande partie du monde connue, comme il l'a fait par la prédication de l'Évangile. Il commença par abolir chez son peuple. Oui, c'est ce qu'il a fait par la captivité de Babylone. Ce fut là comme un présage de cette abolition que Dieu était sur le point d'opérer par le moyen de Jésus-Christ dans une si grande partie du monde païen. Ce peuple qui s'était adonné, on peut dire qui s'était donné à l'idolâtrie pendant tellement de siècles, malgré tous les reproches, malgré tous les avertissements, les châtiments, les jugements de Dieu, en fut alors guéri pour toujours. Alléluia. De sorte que quoique quelques-uns soient tombés dans ce péché plus tard, comme ce fut le cas du temps de la persécution d'Antiochus, cependant, la nation comme nation ne se montra jamais plus, à partir de cette époque-là, disposée à retomber dans ce péché-là. Ce fut là donc un changement remarquable et surprenant chez ce peuple et il avança directement l'œuvre de la rédemption, ce qui fut un grand progrès dans les choses religieuses. Deuxièmement, un fait qui prépara la voie pour la venue de Jésus-Christ et l'établissement glorieux de l'économie évangélique, ce fut la cessation de plusieurs de ces choses qui constituaient la gloire de la dispensation mosaïque. Il était donc nécessaire, pour introduire la glorieuse dispensation évangélique, que la gloire extérieure de l'Église juive fût diminuée. Et ce fut donc là, à plusieurs égards, ce qui a été la captivité de Babylone. Premièrement, elle a fait cesser la domination temporelle de la maison de David et elle a enlevé au peuple son indépendance et le gouvernement de ses propres affaires. Ensuite, elle a enlevé au peuple la couronne et le diadème, comme le temps approchait où Christ, le roi tout-puissant de son Église, allait enfin régner, il convenait donc que les rois typiques disparussent entièrement. Comme Dieu l'a dit à Ézéchiel au chapitre 21, verset 26, que on ôte cette tiare et qu'on l'enlève cette couronne, ce ne sera plus celle-ci, car j'élèverai ce qui est bas et j'abaisserai ce qui est haut. À partir de cette époque-là, les Juifs ont été toujours gouvernés par des nations étrangères jusqu'à la venue de Jésus-Christ pendant près de 600 années. Par exception, ils ont maintenu leur indépendance durant environ 90 ans au moyen de guerres continuelles sous les Maccabées et leurs descendants. La captivité a mis aussi un terme à la gloire et à la magnificence du temple, et celui qui fut bâti plus tard n'était rien en comparaison du premier. Ainsi, il arriva que comme le temps de l'apparition du magnifique antitype du temple approchait, le type perdit donc son éclat. La captivité leur a fait perdre aussi les deux tables du témoignage qui a été donné à Moïse et sur lesquels Dieu avait écrit de son doigt les 10 commandements au mont Sinaï. Il apparaît qu'elles furent conservées dans l'arche jusqu'à la captivité. Elles s'y trouvaient quand Salomon a placé l'arche dans le temple. Il n'y avait rien dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait mises en Horeb, selon 1 roi, chapitre 8, verset 9. Et nous sommes en droit de supposer qu'elles restèrent là aussi longtemps que le temple fut debout. Les Juifs disent qu'elles furent définitivement perdues vers cette époque-là, mais les anciens commandements furent préservés dans le livre de la loi. Ces tables aussi disparurent à l'approche de leurs antitypes. L'Ourim et le Toumim furent aussi du nombre des choses perdues. Et Atirsata leur a dit qu'il ne manqua point des choses très saintes, tandis que le sacrificateur assisterait avec l'Ourim et le Toumim, selon Esdras, chapitre 2, verset 43. J'espère que je n'ai pas estropié la sentence et je veux la répéter. L'Ourim et le Toumim ont été aussi du nombre des choses qui ont été perdues. Et Atirsata leur a dit qu'il ne manqua point des choses très saintes, tandis que le sacrificateur assisterait donc avec l'Ourim et le Toumim, selon Esdras chapitre 2, verset 63. Nous n'avons pas de preuve qu'ils aient jamais été retrouvés, bien que les anciens écrits des Juifs disent le contraire. Je n'examinerai pas pour le moment ce que étaient l'Ourim et le Toumim, mais j'observerai seulement que le grand prêtre s'en servait pour consulter Dieu et pour recevoir de lui des réponses immédiates et que Dieu, par leurs moyens, délivrerait les oracles immédiats dans des occasions particulières. Ils disparurent car le temps de la venue de Jésus-Christ, qui est l'antitype de l'Ourim et du Toumim, qui est la grande parole et l'oracle de Dieu, approchait. Alors les anciens juifs disent qu'il manqua aussi dans le second temple la nuée de gloire qui se tenait sur le propitiatoire. Il était donc promis qu'elle serait dans le tabernacle. Il est dit « car je monterai dans une nuée sur le propitiatoire ». Lévitique chapitre 16, verset 2. il est parlé de la nuée de gloire descendant sur le tabernacle. Exode chapitre 40, verset 35. Il en est également question au sujet du temple de Salomon. Mais il n'est pas dit que cette nuée glorieuse se soit trouvée dans le second temple. Et les anciens récits des Juifs disent qu'il n'y avait rien de semblable. Il n'était donc pas nécessaire qu'elle se trouvât dans le second temple, vu que Dieu avait promis de l'illustrer d'une autre manière par Jésus-Christ qui ferait son entrée, ce qui a eu plus tard son accomplissement. Et j'ébranlerai, est-il dit, toutes les nations, et le désir d'entre toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, a dit l'Éternel des armées. Agée, chapitre 2, verset 7. Quand Moïse construisit le temple et l'autel dans le désert, sur lequel les premiers sacrifices ont été offerts, le feu est venu du ciel et a consumé l'Holocauste. Notez Lévitique chapitre 9, verset 24. Et il en fut de même quand Salomon a construit le temple et a offert les premiers sacrifices. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Et ce feu ne devait jamais s'éteindre, on devait l'entretenir avec le plus grand soin d'après le commandement de Dieu. On tiendra donc le feu continuellement allumé sur l'autel et on le laissera point éteindre. Lévitique chapitre 6, verset 13. Et il n'y a pas de raison de supposer que le feu allumé du temps de Salomon ne soit éteint jusqu'à la destruction du temple par les Babyloniens. Mais alors il fut éteint pour n'être jamais plus rallumé. Il n'est donc pas dit qu'il y ait été redonné à la construction du second temple, comme ce fut le cas à la construction du premier et du tabernacle. Mais les Juifs, après leur retour, ils ont été obligés de se servir de feu ordinaire, comme le rapporte une ancienne tradition. Et c'est ainsi que les lumières de l'Ancien Testament se sont éteintes à l'approche du soleil de justice. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose de très important qui est pour votre sanctification et aussi pour vous aider dans la vie de tous les jours. Écoutez bien, ne regrettez rien, pas même vos péchés et vos échecs. Lorsque on admire du haut d'un sommet les splendeurs d'un panorama grandiose, on ne pense plus aux pierres du chemin ou aux faux pas et aux trébuchements, ni même aux moments de lassitude et de défaillance qui ont marqué l'ascension. Qu'il en soit ainsi pour vous. Respirez à plein poumon, tel un air vivifiant, les grâces nouvelles rapportées avec lui chaque jour qui se lève. Oubliez tout ce qui est derrière vous. L'homme est ainsi fait qu'il peut porter le poids de 24 heures, mais pas davantage. Dès qu'il s'obstine à vouloir se charger du fardeau des années passées et des jours à venir, eh bien ses reins le trahissent et il s'effondre. C'est pour le fardeau du jour seulement que le Seigneur vous a promis son aide. Pour ce qui est du passé, il vous en libère maintenant. Lors donc que vous vous obstinez dans votre égarement, à vous en charge toujours à nouveau, vous l'offensez en l'appelant à l'aide. À chaque jour suffit donc la peine. Oui, au réveil, donc, entrez avec confiance dans la journée qui commence. Le marcheur ne succombera pas de choses inutiles. Auriez-vous pitié de sa peine si en route il refusait de jeter ce qu'il lui faut remplacer? Et c'est pourtant ce que fait bien souvent l'homme quand il s'agit de la vie quotidienne et de ses peines ou de ses obligations. Comment, dans ces conditions-là, s'étonner qu'on aille si souvent ici-bas, la mort dans l'âme est découragée? Quant à vous, vous n'agirez pas ainsi, car vous savez que le Seigneur vous soutient toujours. Et maintenant, prions. Oui, vous tous, dit le Seigneur, regardez vers moi et soyez sauvés. Je l'ai juré, une parole de justice est sortie de ma bouche et elle ne sera point révoquée. C'est que tout genou se pliera devant moi. Alors on dira, la justice et la force viennent de l'Éternel. Mais quiconque s'opposera à lui sera honteux, et toute la postérité d'Israël sera justifiée par le Seigneur, et elle se glorifiera en lui. Écoutez-moi, vous que j'ai porté dès la naissance, je serai le chemin, je serai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai, je me chargerai de vous, et je vous délivrerai. Souvenez-vous des premières choses qui ont été autrefois, car c'est moi qui suis le Dieu fort, et il n'y a point d'autre Dieu, et il n'y en a pas plus, soit semblable à moi, qui annonce dès ce commencement ce qui arrivera à la fin, et longtemps auparavant ce qui n'a point encore été fait. Seigneur, tu as fait approcher ta justice, et elle ne s'éloignera point, et ta délivrance ne tardera point. Tu établiras la délivrance en Sion et ta gloire en Israël. Célébrons donc l'Éternel, invoquant son saint nom. Glorifions-nous du nom de sa sainteté, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu vous aime. Et je répète, je vous aime de tout mon cœur et je vous embrasse maintenant de tout mon amour. Soyez bénis et surtout n'oubliez pas, prions les uns pour les autres. Et maintenant, je vous mets quelques chants d'un très lointain passé. Il y a plus de 50 ans, il n'y avait pas de CD, mais c'était fait, je l'avais enregistré avec un Revox à bande. J'essaye donc de vous mettre ces chants de ce lointain passé.
Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with the gentle persuasion whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow, after the darkness is gone. My heart. dusk of the twilight. Dim be the region afar. Will not the deepening darkness brighten the glimmering stars? Then when the night is upon us, why should the heart sink away? Dark midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how welcome my voice may
the sure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believed. Riches eternal and blessings supernal from his precious hand I received.
Heaven came down and glory filled my soul. Glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. The Savior made me whole.
My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.
It's the old